Vous êtes sur Radio B, 90.0, les bonnes ondes, dans l'émission Musique au pluriel, animée par Bruno Point et Paul Turchet. Pour cette émission de rentrée, nous allons vous parler de Mozart, ce miracle, cette grâce absolue, à qui nous consacrerons deux émissions. La seconde émission sera consacrée à ses opéras. Mozart, ce miracle, qui naît en 1756 à Salzbourg et qui, après 35 ans de vie, aura composé une œuvre impressionnante, un catalogue de 893 œuvres. Voilà cet enfant prodige et prodigieux, qui est le fils d'un musicien, mais cela ne suffit pas forcément pour faire un prodige. Son père, Léopold Mozart, qui est maître de chapelle à la cour du prince. Et cet enfant est surdoué. À 3 ans, il révèle ses dons pour la musique. Il a l'oreille absolue. On dit qu'il a une mémoire eidétique qui lui permet en fait de photographier mentalement une partition et de pouvoir la retranscrire. À 11 ans, il écoute un Stabat Mater et il le recopie en musique après l'avoir écouté de mémoire. Il apprend le violon, il est virtuose du violon, le clavecin, il est virtuose du clavecin, la composition, l'orgue. À 6 ans, il compose déjà ses premières œuvres. Et voilà le miracle révélé déjà dès son plus jeune âge.
Comment se situe Mozart à cette époque par rapport aux autres musiciens? Haydn est né 20 ans avant, donc Haydn a 20 ans quand Mozart naît. Gluck, lui, est né en 1714, donc il a 40 ans lorsque Mozart naît. Donc voilà déjà deux grands musiciens qui sont de la même époque et qui sauront reconnaître le génie de Mozart en le rencontrant. Beethoven, lui, va naître lorsque Mozart a 20 ans. Et nous l'avons vu dans notre émission sur Mozart, les premières œuvres de... Sur notre émission sur Beethoven, les premières œuvres de Beethoven ont été très influencées par Mozart. Il s'en échappera car il avait son propre génie, mais il a marqué son époque. En France, il y a Rameau, il y a Lully, grands compositeurs, très grands compositeurs, mais qui vont moins marquer l'histoire de la musique. Commençons par nous imprégner de Mozart par une sonate. Et nous allons découvrir dans cet andante de la sonate 281 le calme, le génie, le délice de Mozart. Thank you.
c'est cela la grâce de Mozart. Ce tout jeune Mozart, dont les dons sont tels que son père l'emmène alors qu'il a 6 ans, faire un tour d'Europe pour qu'il se produise. Il parcourt l'Europe, il vient en France, y compris à Lyon, la Suisse, Amsterdam, Londres. Et dans ce petit périple, alors qu'il est tout enfant, il va rencontrer des personnages, des musiciens qui vont l'influencer et le former en même temps énormément. Johann Schobert à Paris. Schobert est presque inconnu, mais c'est un très grand claveciniste, un virtuose du clavecin. Il donnera sans doute à Mozart le goût de développer l'œuvre pour clavier. Johann Christian Bach, qui est le plus jeune fils, le fils cadet de Jean-Sébastien Bach, qui va effectivement lui apprendre aussi la composition. Et puis, il découvrira plus tard, mais par lui-même, Bach et Händel. Et puis, il rencontre un pédagogue qui traverse ce siècle, qui est Joseph Haydn, que nous avons déjà rencontré dans d'autres émissions au passage. C'est Haydn qui dit à Léopold Mozart, donc le père de Wolfgang, « Je vous le dis devant Dieu, en honnête homme, votre fils est le plus grand compositeur que je connaisse, en personne ou de nom. Il a du goût et en outre la plus grande science de la composition. » Haydn a parfaitement résumé la question des dons de Mozart. Mozart qui disait « Je cherche les notes qui s'aiment ».
on ne saurait résumer le génie de Mozart à la beauté pure de ce que nous venons d'entendre. Nous écouterons d'autres œuvres plus dramatiques, notamment dans les concertos que nous allons écouter, et notamment aussi dans la future émission sur les opéras, où nous verrons que Mozart sait exprimer les sentiments humains, même dramatiques. Mais là, on est dans la grâce totale, dans la beauté pure, avec l'utilisation de deux instruments qui sont un peu les parents pauvres dans les instruments de musique, la flûte et la harpe. Il y a relativement peu de compositions pour la flûte. Il y en a quelques-unes pour la harpe, avec des périodes de grand silence. Il faut, après Mozart, attendre Berlioz qui réintroduit la harpe, puis Mahler, puis enfin Debussy. Mais c'est un instrument qui a été injustement mis de côté, peut-être parce qu'il est difficile à transporter, tout simplement. Donc c'est pas très simple d'avoir une harpe. Ensuite, parce qu'il manque de résonance, c'est un peu la harpe, c'est un peu comme le piano. Les cordes, au lieu d'être frappées, sont pincées. Mais la harpe, vous la voyez, d'ailleurs c'est un instrument magnifique, elle a une petite caisse de résonance en dessous, tandis qu'un piano, il est couvert, on l'ouvre, et là ça résonne et ça sonne. Néanmoins, il y a une parité entre le piano et la harpe, et il suffit d'écouter les concertos de Boieldieu. Mais continuons sur Mozart, qui a su donc trouver cette jonction entre la pureté de ce qu'il voulait exprimer et la pureté de la flûte et la harpe dans ce concerto, et qui a écrit nombre de concertos. Nous allons maintenant écouter le deuxième mouvement du 21e concerto, un des plus célèbres, et où ça fait un petit peu une transition, parce qu'on reste dans l'absolue beauté, l'absolue pureté, mais avec un peu de drame et un peu de sentiment humain plus complexe. Écoutons-le. Thank you. Après la grâce et la pureté du concerto pour flûte et harpe, la beauté et un peu de drame dans ce concerto. On est sous une autre facette de Mozart. Concerto 21, vous ai-je dit. Donc Paul nous a dit 893 partitions laissées par Mozart qui sont appelées Köchel. Pourquoi Köchel ? Parce que M. Köchel, au XIXe siècle, a passé une grande partie de sa vie à lister les œuvres de Mozart. Et on lui rend hommage aujourd'hui. Les œuvres de Mozart sont numérotées Köchel, suivies d'un numéro. En tout cas, beaucoup de concertos, 27 concertos pour piano, 5 concertos pour violon, un concerto pour harpe, un concerto pour hautbois, pardon, pour clarinette, nous en écouterons un extrait, un pour flûte, et 4 concertos pour cors. Le concerto a donc été un des fleurons de Mozart. Il était lui-même grand concertiste, au départ claveciniste, et puis Jean-Chrétien Bach lui avait fait découvrir le pianoforte. Pianoforte, c'est donc un instrument qui s'échappe du clavecin à cordes pincées pour être un instrument à cordes avec un marteau. Et pourquoi pianoforte ? Bah parce que au clavecin, lorsqu'on pince une note, on a une seule intensité, on ne peut pas en avoir plusieurs. Tandis que le pianoforte, si on tape plus fort, eh bien ça fait forte. Si on tape doucement sur la note, ça fait piano. Et après, on a appelé par simplification les pianofortes piano. Voilà l'histoire du mot. Et le concerto, eh bien, c'est faire chanter un instrument, c'est faire se battre un instrument contre ou avec un orchestre. Il peut y avoir fusion, il peut y avoir combat. En tout cas, c'est un modèle que Mozart a beaucoup développé. Haendel l'a fait aussi à son époque. Beethoven le portera à un sommet, suivi de Brahms et d'autres compositeurs, jusqu'à plus près de nous, Ravel. En tout cas, Mozart a, je dirais, calé vraiment le principe du concerto, sa construction, les 3 mouvements, et en a fait des chefs-d'œuvre. Écoutons maintenant le concerto numéro 20. Nous sommes toujours tentés par... lorsqu'on écoute les concertos, qui en général ont un mouvement rapide, un mouvement lent et un mouvement rapide, d'écouter chez Mozart le mouvement lent qui est toujours absolument sublime. Donc il faut se forcer, et là j'ai choisi le 3e mouvement qui est un mouvement rapide.
nous quittons Mozart enfant et sa tournée européenne, avec ensuite une adolescence où il passe très rapidement au service du prince archevêque Colloredo, qui est vraiment un maître absolu, qui quasiment le séquestre, lui interdit de quitter Salzbourg, oblige le père de Mozart à démissionner de son poste pour pouvoir l'accompagner, et finalement Mozart quitte Salzbourg avec sa mère. Ensuite, il revient s'installer à Vienne. J'allais dire c'est la maturité, si l'on peut dire comme ça, parce que peut-on parler de maturité, il a 25 ans. Mais il développe sa propre œuvre sans les liens qui l'unissent, si l'on peut dire, à son employeur. Son père est décédé, son employeur, il l'a quitté, et il s'installe à Vienne avec sa vie mûre. Il rencontre Constance, il loge chez Madame Weber, donc il épouse l'une des filles de Madame Weber, Constance, avec qui il aura 6 enfants en 9 ans. Constance, dont on dit beaucoup de mal, mais je crois qu'il faut être un peu indulgent. Elle est très fatiguée par des grossesses répétées. Et puis surtout, elle souffre de l'insouciance de son homme de génie, mais qui justement est tellement insouciant qu'il reste plus ou moins un enfant jusqu'à la fin de ses jours. Ce sont, dans cette maturité, des rencontres qui vont le pousser également à rentrer en franc-maçonnerie, car il n'est pas seulement musicien, il est lettré, il a une intelligence globale, il est pétri des idées des Lumières, il rentre en 1784 en maçonnerie dans la loge de la Bienfaisance, dont il sera d'ailleurs grand maître en janvier 85. Et il composera des œuvres, dont la flûte enchantée, dont des œuvres religieuses qui sont d'inspiration maçonnique. Alors, vous allez écouter maintenant un extrait du 23e concerto, toujours les concerti de Mozart. Et l'audition est précédée d'une rapide interview de Vladimir Horowitz. Voilà, pour que vous ne soyez pas surpris, ce n'est pas tout de suite de la musique que vous allez entendre la voix d'Horowitz, merveilleux pianiste.
Horowitz, le plus important quand on lit les lettres de Mozart, c'est qu'on constate l'emphase avec laquelle il parle des sentiments et de l'expression quand il s'agit de faire de la musique. Il reprochait sans cesse à ses contemporains leur virtuosité mécanique et dénuée de sens, ainsi que leur manque d'émotion et de sensibilité. Dans ses lettres, nous pouvons voir qu'il était un homme voluptueux, qui avait les pieds sur terre et qui possédait un large éventail d'émotions. Sa musique les exprime toutes, et dans ce sens, Mozart était un compositeur romantique.
Thank you.
Nous avions écouté le troisième mouvement du 20e concerto, mouvement rapide avec beaucoup, beaucoup de notes que l'immense pianiste Rudolf Serkin perlait et jouait d'une manière magnifique avec une grande tension. Et là, le 23e concerto, c'est joué par Horowitz. Ils étaient très amis, mais totalement différents l'un et l'autre, avec une intensité de son qui nous fait penser que les mouvements lents, lorsqu'il y a peu de notes, eh bien, il faut les remplir. Que ce soit le compositeur ou le pianiste, c'est là où on s'aperçoit, bien sûr dans les mouvements rapides aussi, mais dans les mouvements lents, lorsqu'il y a peu de notes, si elles sont banales, eh bien, on s'ennuie à mourir. Eh bien, dans Mozart, ce n'est pas du tout le cas. Les quelques notes, notamment les dernières notes du piano, qui sont vraiment, il y a une dizaine de notes, sont juste sublimes. C'est ça le miracle Mozart. Miracle Mozart qui est très bien traduit dans le film de Milos Forman qui s'appelle Amadeus, qui envisage qui fait une faute historique, mais volontaire, puisque le principe du film, c'est d'imaginer que le contemporain Salieri, dont on connaît très peu de choses aujourd'hui, bien qu'il soit encore connu, et qui était un fin musicien, un très bon pédagogue, et d'ailleurs plutôt un homme bon, qui a beaucoup aidé de compositeurs à l'époque. Mais Milos Forman imagine, pour la dramaturgie, qu'il a empoisonné Mozart. Et que donc ce film magnifique voit Salieri, vieux barbon, jaloux, mais jaloux de quoi ? Jaloux du génie absolu. Et les très grands moments du film, c'est lorsque Salieri, qui vient de travailler à écrire des bonnes œuvres musicales, tout d'un coup écoute quelques notes de Mozart et s'aperçoit que, eh bien, il y a un abîme entre deux. Lui est un très bon musicien, il a été un grand pédagogue, mais Mozart, c'est le miracle, c'est le génie. Et en quelques notes, il change la musique et il change tout ce qu'on écoute. Parmi ses dernières œuvres, le concerto pour clarinette, rendu aussi très populaire par un autre film, puisque c'est la musique du film, d'ailleurs, dont je ne trouve plus le nom au moment d'en parler, mais je vous le dirai après, je vais le retrouver. Mais c'est en tout cas, ça a rendu très populaire ce concerto, qui est absolument magnifique. C'est une des œuvres de la fin de la vie de Mozart. Nous y reviendrons. Le film, c'est Out of Africa avec Meryl Streep et Robert Redford qui vivent une histoire d'amour. Et cette musique d'une pureté totale aussi, est juste magnifiquement choisie pour les paysages africains qui sont l'objet du film. Paul.
Nous allons quitter le domaine du concerto et il n'est pas possible de terminer cette première émission sans parler des symphonies de Mozart. Nous allons écouter un extrait qui est connu dans le monde entier. C'est, je crois, l'une des œuvres musicales que la moitié de la Terre sans doute a fredonné. C'est un extrait de sa 40e symphonie, l'avant-dernière, qui est une symphonie qui est composée en mode mineur et qui donne un sentiment de tragique, un sentiment d'angoisse. Nous pensons tellement à Mozart qu'on essaye de traduire en mots ce qui est impossible, la musique par définition, mais quand je parlais de la grâce, parce que c'est le premier mot qui me vient à l'esprit quand je pense à Mozart, la grâce, ça ne veut pas dire la gaieté. Beaucoup d'œuvres de Mozart sont extrêmement tristes. Mais à la différence, par exemple, d'un Schubert, où on tombe carrément dans l'abîme et on tombe dans une trappe de désespoir, la tristesse de Mozart reste gracieuse. Elle est évoquée, elle est sous-entendue, elle est presque entre les notes, car elle garde une retenue, une pudeur qui sont sans pareil dans l'histoire de la musique, à mon sens. Écoutons donc cet extrait de la 40e symphonie.
Thank you.
Nous avons écouté lors de cette émission l'andante de la sonate 281 par Claudio Arrau, qui a enregistré à merveille les sonates de Mozart, puis le concerto flûte et harpe par le Croatian Music Institute, donc c'est un orchestre croate avec deux solistes croates, puis Serkin, Rudolf Serkin avec le chef Eugène Normandie dans les concertos 21 et 20, où là on sent le feu de Serkin, la marche en avant permanente, la tension, puis Horowitz qui lui-même toute sa vie a joué comme un, je dirais comme un cheval au galop, et qui sur la fin de sa vie a enregistré avec Giulini et exprime plutôt à ce moment-là le calme et une certaine sérénité dans ce concerto qui n'était pas d'usage dans ses concerts lorsqu'il était plus jeune et même toute sa vie. Et enfin le concerto pour clarinette, pour ce qui concerne les concertos, par Patrick Messina, et la 40e symphonie, son premier mouvement, par l'ensemble Appassionato, qui avait enregistré sur France Musique. Et nous vous disons à très bientôt pour Mozart numéro 2 et Mozart surtout pour les opéras. À bientôt.
À bientôt. Thank you.